Dans cette troisième heure, on va terminer notre semaine avec nos mythes et complots, hein, avec notre chronique insolite, hein, avec Christian Page. Luc Lavoie va venir faire son tour avec son bon coup et son mauvais coup de la journée, mais d'abord, le virus du Nil. Écoutez, 11 personnes sont décédées cette année au Québec après avoir contracté le virus du Nil. C'est un record. Et pourquoi? Est-ce que c'est en hausse? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Est-ce que c'est lié au réchauffement de la planète? On va aller rejoindre le docteur Alex Carignan, qui est microbiologiste, infectiologue, professeur à la faculté de médecine, dis-je bien, et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Docteur Carignan, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce que c'est tout simplement un épiphénomène, puis à un moment donné, ça va se remettre à diminuer?
Bien, c'est certainement préoccupant. Je pense que vous avez raison de vous y intéresser. Le virus du Nil, c'est pas un phénomène qui est nouveau au Québec, au Canada. En fait, ça a été introduit en Amérique du Nord en 1999. Ensuite, il y a eu quelques années tranquilles. Puis en 2012, il y avait eu un retour en force avec plus d'une centaine de cas. Mais depuis 2012, en fait, on voit que le virus est quand même bien installé chez nous avec grosso modo 30 à 50 cas par année. Mais là, cette année, c'est effectivement une très, très grosse année avec ses 150 cas, ses 11 décès. C'est une infection qui peut être très sévère. Heureusement, la majorité des cas, les patients n'auront pas de symptômes, mais dans un certain pourcentage des cas, les patients vont développer des symptômes neurologiques. Donc, on parle d'une encéphalite, donc une infection au niveau du cerveau qui peut être très grave, causer des décès. Dans certains cas, on peut avoir des atteintes au niveau... on peut voir des cas de paralysie. Donc, c'est pas un virus qui est banal. C'est un virus, effectivement, qui semble un peu cyclique, mais qui est définitivement chez nous, qui semble bien installé, qui semble là pour rester.
Ça veut dire quoi, ça, bien installé? Ça veut dire que les moustiques porteurs de ce virus-là vont continuer à vivre au Québec, et en particulier, quoi? C'est en Montérégie, hein? Montérégie et Laval, hein, c'est ça?
Oui, ce sont les régions qui sont les plus touchées. C'est effectivement un virus qui est transmis par un moustique. Puis effectivement, le virus, contrairement à la maladie de Lyme, par exemple, qui est transmise par une tique qui s'est graduellement installée, le moustique était quand même bien installé. Par contre, la maladie à l'intérieur du virus, le cycle à l'intérieur, parce qu'il y a aussi des oiseaux qui peuvent être atteints, semble bien installé.
Alors, quoi, il vit où, le virus? Il vit en quoi? Là, quand vous dites qu'il est installé, vous nous dites, dans le fond, le virus ne va pas mourir. Le virus va rester vivant sur le territoire québécois pour les années à venir. Donc, il vit où? Il vit en quoi?
Bien, en fait, c'est principalement des oiseaux. Puis en fait, il va circuler entre les oiseaux, les moustiques, l'humain. C'est un cycle, en fait, qui continue perpétuellement. Puis effectivement, on peut s'attendre effectivement à ce que ça demeure chez nous là pour les prochaines années.
Donc, le moustique va piquer l'oiseau. Et après ça, le même moustique vient nous piquer, nous, les humains, et c'est là qu'il nous transmet le virus?
Grossièrement, oui.
OK, puis il n'y a pas moyen de venir à bout de ce virus-là.
C'est assez difficile. Il y a des programmes, parfois qui ont été essayés, des pendages de larvicides. Je suis pas un expert, disons, en contrôle des populations de moustiques, mais ça a déjà été utilisé par le passé. Pour ce qui est du virus lui-même, chez l'humain, malheureusement, il n'y a pas de vaccin qui est disponible. Puis l'autre chose qui est triste, c'est qu'on n'a pas de traitement efficace. Donc, c'est essentiellement du traitement de support, le temps que les gens se remettre de leur infection au cerveau, mais il faut savoir quand même que c'est une infection qui peut causer des séquelles graves. On l'a vu, en fait, peut causer des décès dans certains cas. Donc, c'est loin d'être banal, là. Je pense qu'effectivement, on doit absolument s'intéresser à cette infection-là.
Qu'est-ce qui fait que, vous avez dit, hein, cette année, là, 150 personnes ont contracté le virus du Nil. Il y en a 11 qui sont décédées. Est-ce qu'on sait pourquoi ces 11-là sont décédés?
J'ai pas le détail des cas avec moi, mais pour en avoir déjà, disons, traiter et, disons, accompagner, va se soigner, c'est un grand mot, comme on le disait dans ces cas-là, ce sont des infections au niveau du cerveau, donc les gens peuvent tomber vraiment dans le coma. Et puis, ce sont des complications de cette infection-là au cerveau, généralement, qui vont amener les décès.
Donc, on ne sait pas si ces 11 personnes-là qui sont décédées avaient une prédisposition qui les rendait plus fragiles ou avaient peut-être un système immunitaire plus faible au moment où elles ont contracté le virus. Tu sais, dans le fond, pourquoi tu en as 139 qui survivent puis t'en as 11 qui meurent? Ouais. On n'a pas réponse à cette question-là.
On a réponse en le sens que, je vous dirais, dans tous les cas, généralement, la grande majorité des infections vont passer un peu comme une grippe, donc de la fièvre, des douleurs musculaires, sans que les gens développent cette complication-là. Effectivement, des gens qui peuvent être plus fragiles peuvent être plus enclins à avoir des complications. Par contre, là, j'ai pas le détail là, des cas au niveau québécois.
Là, je lisais, c'est Radio-Canada qui rapportait le cas de Mme Bellemare, là, qui est décédée en 2018. Elle était en pleine forme le lundi, atteinte d'une forte fièvre le lendemain, hospitalisée d'urgence aux soins intensifs le vendredi, donc 5 jours plus tard, en moins de 24 heures dans le coma, diagnostic encéphalite, c'est terminé.
Bien, je vous dirais que c'est l'évolution qu'on peut voir dans les cas sévères, encore une fois, qui sont une minorité des cas, mais c'est l'évolution qui peut être vue assez fréquemment lorsqu'on a une atteinte au niveau du cerveau. Ça évolue quand même très rapidement, ce type d'infection-là. J'ai déjà vu des personnes dans la trentaine, la quarantaine décédées de complications d'encéphalite de ce type-là très, très rapidement.
Il n'y a rien que vous pouvez faire. D'abord, est-ce que Dr. Carignan, quand la personne, mettons, commence à développer cette fièvre-là, est-ce qu'on diagnostique l'infection au virus du Nil ou on s'aperçoit seulement après, dans certains cas, que c'était le virus du Nil
je vous dirais, dans la majorité des cas, on va le savoir a posteriori, plusieurs jours, même semaines après, parce qu'on va tester des anticorps, c'est des tests qui sont pas de routine. On le suspecte fortement parce que le diagnostic d'encéphalite, ça c'est un diagnostic généralement qui est assez clair. Par contre, il y a plusieurs virus qui peuvent le causer. Puis pour avoir vraiment le nom du virus, dans ce cas-ci, le virus du Nil occidental, ça va survenir un peu plus tard.
OK, fait que même si on avait un traitement, ce serait difficile de l'appliquer parce qu'on n'est même pas sûr qu'on
avait Vous avez raison. Dans certains cas d'encéphalite ou dans d'autres types d'infections, par contre, dont le diagnostic survient tardivement, on peut quand même débuter, lorsqu'on a une suspicion clinique, on va débuter un traitement agressivement, même si on n'a pas la certitude. C'est certain que si on avait un traitement disponible, on l'utiliserait avant de poser le diagnostic. Évidemment, on ne va pas attendre que les gens soient dans un état, tout près de la mort avant de débuter un traitement quand il y en a un. Mais c'est important de s'intéresser à cette maladie-là, de mieux la comprendre. Vous avez parlé des changements climatiques. Les changements climatiques ont certainement un rôle. Le cycle dont on parlait tout à l'heure n'est pas parfaitement compris. On doit bien s'entendre là-dessus. Il y a probablement certains paramètres climatiques qui jouent sur la fréquence, l'incidence de cette maladie-là. Lesquels exactement, c'est pas parfaitement compris. Puis en fait, c'est une des raisons pourquoi on doit encourager la recherche. Puis, si vous me permettez, on a justement un programme de recherche là-dessus sur des infections émergentes qu'on appelle, donc les infections transmises par les moustiques, les tiques, la maladie de Lyme. Un programme de recherche là-dessus à l'Université de Sherbrooke qui est en développement. Puis, évidemment, on cherche toujours du financement. C'est pas facile, la recherche. Mais bref, on travaille. On aimerait mieux comprendre ces maladies-là qui sont en train de s'installer dans un contexte de réchauffement climatique.
Et j'allais vous poser ma dernière question. Comment on s'en protège? Parce que là, je me mets à la place de certains parents là, qui nous écoutent. Ils disent, là, si on va dehors, on peut se retrouver avec une piqûre de tic qui va nous transmettre la maladie de Lyme. On peut se faire piquer par un moustique qui va nous transmettre le virus du Nil. Coudon, il va-tu falloir rester en dedans?
Ben absolument pas. Je pense qu'il faut être vigilant face à ces maladies-là.
Mais on s'en protège comment?
Avec les méthodes, je vous dirais, traditionnelles de protection contre les moustiques, vêtements longs, insectifuges avec du DEET. C'est des méthodes quand même qui sont démontrées comme étant très efficaces pour pouvoir éloigner les virus, prévenir ce genre d'infection-là. Mm-hmm. Au quotidien, moi, je vous dirais, je suis un amant de plein air, puis je me prive pas de ces plaisirs-là. C'est des infections quand même, bon, 155, c'est un nombre important, mais il faut aussi relativiser sur l'ensemble de la province. Faut pas non plus, je pense, être alarmiste. Faut être vigilant, faut être prudent, faut continuer de suivre. Ces infections-là sont très bien suivies par nos autorités de santé publique. Mm-hmm. S'il y a des mesures à implanter au niveau de santé publique, je suis certain qu'elles vont être installées. Donc, c'est se protéger au niveau personnel, mais je pense qu'il ne faut pas non plus rester absolument à l'intérieur pour ces raisons-là.
Non, OK, on s'entend. Docteur Alex Carignan, microbiologiste infectiologue, professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Très clair, docteur. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
On s'arrête. Luc Lavoie s'amène.